Bon, alors bon matin tout le monde. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi je m'appelle Andrew, puis je suis membre ici à l'Oasis. Et récemment, comme Marc l'a mentionné, j'ai eu le privilège de faire partie d'un groupe qui avait pour but de former des prédicateurs ici à l'Oasis. Et au courant de la dernière année, alors moi c'est Andrew, je suis membre ici à l'Oasis, puis comme Marc l'a mentionné, dans la dernière année, j'ai fait partie d'un petit groupe qui avait pour but de former des prédicateurs. Et comme nous avons eu récemment une série sur l'évangile de Marc, Marc, notre pasteur, nous a demandé... nous a demandé de choisir un texte dans l'évangile de Marc pour préparer une prédication. Et alors que j'étais en train de réfléchir à propos de quel texte choisir, Cathy et moi étions en plein milieu de faire nos impôts. Puis je dis Cathy et moi, mais honnêtement, Cathy fait comme 95 % du travail. Et puis les impôts sont compliqués. Et parfois, on ne sait pas exactement comment procéder, comment répondre à telle question. Et puis, lors de cette période-là, j'étais en train de lire l'Évangile de Marc, puis j'ai lu un passage où Jésus est en train de parler des impôts. Et je me suis dit, bon, moi, je vais étudier ce texte pour voir qu'est-ce que Jésus a à dire sur les impôts, puis s'il pouvait m'aider avec tous les détails compliqués que je ne comprenais pas. À ma grande surprise, Jésus avait peu à dire sur les impôts de 2026. Jésus, un juif du 1er siècle, lui, il connaissait peu, mais il connaissait probablement, mais il avait peu à partager sur les impôts fédéraux et provinciaux en 2026. Mais je vous rassure que mon étude de ce texte n'était pas en vain, parce que Jésus avait des vérités éternelles à partager avec nous à ce moment-là, qui ont des implications de comment on vit notre vie de nos jours. C'est ça qu'on va explorer ensemble ce matin. Alors, avant de lire le texte, prions ensemble. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons ensemble en tant qu'Église. Seigneur, je prie, comme Marc l'a dit, que ultimement que ça soit ta voix qui parle ce matin à travers moi, Seigneur. Je prie à travers ta parole, surtout que tu puisses transformer nos cœurs et nos pensées pour vivre selon ta volonté, Seigneur. Alors, nous prions cela dans ton saint nom. Amen. Alors, le texte que nous allons lire ce matin est Marc, chapitre 12, 13 à 17. Puis j'ai oublié de le mentionner, mais le titre de ma prédication, c'est « Les impôts célestes ». Alors, lisons le texte ensemble. Alors, ici, on est dans l'Évangile de Marc, on est vers la fin du ministère de Jésus, et on voit que les chefs religieux essayent de mettre Jésus dans le piège pour pouvoir le condamner, dans le fond. Alors, nous lisons au verset 13, « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne. » car tu ne regardes pas l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Et ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui portent-elles l'effigie et l'inscription? » De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Alors, le point principal de mon message, c'est « Donnons à Dieu ce qui lui appartient. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce qui appartient à Dieu. Nous avons lu ici que l'argent appartient à César car il porte son effigie. Jésus a demandé la question à la foule, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription lorsqu'il parle de la pièce de monnaie, puis ils répondent à César. Alors, si on voit que l'argent appartient à César car elle porte son effigie, il y a deux questions qui découlent de cela. De un, c'est quoi une effigie? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là dans ma vie. C'est un mot qu'on utilise très peu dans notre vocabulaire. Alors, je pense que ça vaut la peine de le définir. Puis de deux, c'est quoi l'équivalent de l'effigie de César pour Dieu? Alors, bon, effigie. Alors, effigie, si on regarde dans un dictionnaire de synonymes, un des mots qui peut être utilisé pour à la place d'effigie, c'est le mot image. Et puis, en grec, qui était la langue originale du Nouveau Testament, on voit ici que le mot effigie est traduit du mot grec que j'ai mis à l'écran ici, écon. Puis, icône, c'est là où on retrouve notre mot français icône, qui, souvent utilisées dans l'Église orthodoxe où moi j'ai grandi, sont considérées comme des images ou des représentations du divin, qui aident comme des outils pour la prière, la méditation, et non comme des objets d'adoration. Alors, si nous avons le mot « effigie » là, qui est égal à « image », bien, on pourrait aussi faire un lien que l'effigie de Dieu est égale à l'image de Dieu. Puis, il me semble que j'ai déjà entendu ce concept-là de l'image de Dieu dans la Bible, puis je me suis dit, y a-t-il un texte qui parle de ce concept d'image de Dieu? Alors, j'ai ouvert ma Bible, puis il ne faut pas se chercher très loin. Page numéro 1 de la Bible, Dieu en train de parler de la création, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Je l'ai mis ici en gras puis souligné, là, on voit que dans l'espace de quelques versets, le concept d'image revient à plusieurs reprises quand Dieu est en train de parler de nous, sa création. Puis ici, à l'Ancien Testament était... Elle était écrite originale en hébreu, mais à l'époque de Jésus, on avait déjà une traduction grecque de l'Ancien Testament. Et ici, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot « image » est traduit par le mot, avec le mot « écon », le même mot qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc lorsque Jésus est en train de parler des impôts. Alors, quand Jésus utilise ce mot-là, « effigie », il fait aussi probablement référence à ce concept d'être créé à l'image de Dieu. Alors, si les humains, eux, sont créés à l'image de Dieu, on a ce parallèle qui se développe entre César et Dieu. Alors, si César, lui, on doit donner l'argent à César car son image est inscrite dessus, nous-mêmes, on est appelés à se donner à Dieu quand nous avons notre image inscrite dessus. Dieu désire beaucoup plus qu'une pièce de monnaie. Nous, on est comme la pièce de monnaie avec l'image de Dieu inscrite sur nous. Puis pour cela, Dieu nous désire profondément. Il désire qu'on se donne pleinement à lui. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce que cela implique en réalité, alors? Alors, pour le reste de mon message, j'aimerais ça sortir de cette histoire-là où Jésus est en train de parler des impôts. Et on va explorer trois autres récits dans l'Évangile de Marc qui vont nous servir comme trois exemples où on voit l'action de trois différentes personnes qui démontrent pleinement comment payer leurs impôts célestes, comment se donner pleinement à Dieu. Nous allons lire et explorer ces trois histoires suivantes. L'histoire de la veuve qui donne tout, l'histoire de la femme qui déverse le parfum sur Jésus et Jésus dans le jardin. Alors, chacune de ces histoires dans l'Évangile de Marc vont nous montrer une facette différente de comment payer nos impôts célestes et de comment se donner complètement à Dieu, car ça, c'est son désir le plus profond. Alors, la veuve qui donne tout. Alors, quelques versets après que Jésus est en train de parler des impôts, on voit que Jésus souligne les actions d'une femme en Marc chapitre 12. Puis on avait déjà lu ce texte il y a quelques semaines, mais nous allons le relire ensemble. Alors, Jésus était assis vis-à-vis du tronc et il regarda comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches y mettaient beaucoup et une pauvre vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, ici pour la veuve, une des distinctions que Jésus fait entre les riches et la veuve, puis c'est marqué dans le texte, c'est le concept de donner de son nécessaire versus donner de son superflu. On voit ici que le sacrifice de la veuve est reconnu par Jésus. Il le dit même, en vérité, elle a donné beaucoup plus. C'est comme dire, Jésus, lui, avait une vision, une économie céleste, disons, où le sacrifice de la veuve était beaucoup plus grand que celle des riches, puis c'est ça que Jésus reconnaissait ultimement. Puis, je pense qu'il y a une autre distinction à faire dans ce texte qui n'est pas nécessairement écrit, que Jésus ne souligne pas autant, mais ce concept-là de bon, mon argent versus un cadeau. J'ai l'impression que la veuve, elle, avait une vision un peu différente des riches de son propre argent. Puis, le texte ne nous le dit pas, mais j'ai l'impression que les deux pièces de monnaie étaient probablement données à la veuve comme acte de charité. Les veuves, dans le temps de Jésus, étaient très vulnérables. Souvent, il n'y avait personne pour leur protéger ou pour leur soutenir financièrement. Il y avait même des lois de l'Ancien Testament qui permettaient aux veuves de récolter de la nourriture sur la bordure des champs. Alors, ça ne me surprendrait pas que les deux pièces de monnaie que la veuve a remises cette journée-là étaient probablement données à la veuve comme acte de charité. Puis ça, je pense que ça fait en sorte qu'elle a probablement une vision, que l'argent est en sa possession, mais elle ne l'appartient pas nécessairement. Tandis que les riches, eux, puis comme je l'ai dit, ce n'est pas exactement marqué dans le texte, mais ils ont probablement une impression que l'argent leur appartient. Je pense que c'est une réaction humaine normale de dire, « Bon, moi, j'ai travaillé tellement fort, je mérite mon argent. » Mais ici, je pense que Jésus nous appelle à être comme la veuve, qui a une vision du monde, que tout ce qu'elle a est ultimement un cadeau, puis ultimement vient de Dieu. Puis quand nous avons cette vision-là du monde, ça rend ça beaucoup plus facile de pouvoir donner notre argent à Dieu, car ultimement, bien, ça vient de lui. Puis il y a plusieurs façons de faire cela. Ici, on voit que la veuve, elle donne son argent au temple, puis ça, c'était très important pour Jésus. Et on voit que Paul, quand il écrit ses lettres aux églises, lui aussi avait une vision que donner l'argent à l'église, c'était une importance ultime. Puis, c'est toujours important pour nous au 21e siècle. Cette année, en tant qu'église, on a pris un pas de foi avec l'augmentation de notre budget. Puis, je veux nous encourager comme église de continuer à donner de notre cœur comme la veuve. Puis, même si c'est un point important de donner notre argent à l'Église, je ne pense pas que ça se limite jusqu'à ça, quand Jésus est en train de parler de la générosité de la veuve. Étant créé à l'image de Dieu, bien, quand on donne à son prochain, ça équivaut un peu à donner à Dieu. Puis ce n'est pas juste moi qui le dis, il y a même un proverbe au chapitre 19 qui dit « Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Alors la générosité de nos possessions ne se limite pas juste à donner à l'Église, puis elle ne se limite pas non plus juste à donner des objets à nos voisins, comme on le fait avec le petit partage, comme exemple ici à l'Oasis, ou de donner notre argent même, comme on fait pour aider les autres, comme notre ministère d'entraide ici à l'Église aussi. L'hospitalité peut aussi être une autre forme de générosité. On peut utiliser ce que Dieu nous a donné pour sa gloire. Alors, Jésus ici nous appelle à être comme la veuve, car elle se donne pleinement à Dieu en remettant toutes ses possessions à lui. Alors, ça, c'est le premier point. Puis là, nous allons voir la deuxième histoire. Je pense que c'est un peu petit, mais je vais lire l'histoire. Alors ici, on va explorer l'histoire de la femme qui déverse son parfum sur Jésus. Puis nous allons voir comment donner sa vision du monde à Dieu. Alors, cette histoire-là se retrouve à quelques chapitres plus tard dans l'Évangile de Marc. Et nous lisons au chapitre 14, versets 3 à 9. Que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait une vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres et vous pouvez toujours leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas pour toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Ici, je veux comparer la perspective de la femme avec la perspective des disciples. Ici, Jésus nous indique qu'elle a fait cela pour préparer sa mort. Je trouve que c'est un détail très fascinant. Au verset 8, il le dit, « Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Puis la mort de Jésus, ce fut un concept très, très, très difficile pour les disciples à saisir. Jésus a dit à ses disciples trois fois qu'il allait mourir dans l'évangile de Marc. Puis au courant de son ministère, Jésus avait des énoncés assez complexes, puis des fois très difficiles à comprendre. Parfois et même souvent, les disciples avaient besoin d'explications supplémentaires pour comprendre davantage. Puis même moi, j'aurais aimé ça avoir ce luxe, parce qu'il y a encore des énoncés de Jésus que je ne comprends pas tout à fait. Mais ceci étant dit, je ne pense pas que Jésus aurait pu être plus clair lorsqu'il a prédit sa mort. Je vais juste vous le lire rapidement, mais la troisième fois qu'il a prédit sa mort, Il dit, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, et le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Ici, on voit que Jésus est très clair. Il a répondu à toutes les questions possibles, le où, le quand, le qui, le comment. Mais malgré ça, on voit que les disciples, ils avaient peu compris. On voit que la première fois que Jésus a annoncé sa mort, Pierre l'a réprimandé. Puis on n'a pas leur réaction immédiate la troisième fois qu'il a annoncé sa mort, comme on vient de lire, mais on a la réaction qui a suivi son arrestation. On voit que les disciples, ils ont résisté avec de la violence. Ensuite, ils se sont enfuis avec peur, qui démontre vraiment un manque de compréhension à ce que Jésus leur a expliqué trois fois auparavant. Alors, pourquoi les disciples avaient-ils tellement de misère à saisir ce concept? Je pense que leur vision du monde, de Jésus comme le Messie triomphant d'Israël, ne s'alignait pas avec ce qui se passait devant leurs yeux, malgré le fait que Jésus leur a dit ce qui allait se passer. Ils avaient une vision du monde de comment Dieu devrait agir. Ils n'étaient pas capables de remettre leur vision du monde à Dieu, puis cela leur a rendu aveugles, puis ils ne voyaient pas comment Dieu était à l'œuvre. En contraste, nous avons la femme. Elle voit la situation clairement. Ce n'est pas écrit qu'elle était présente les trois fois où Jésus a annoncé sa mort, mais elle semble comprendre pareil. Au lieu de résister à la volonté de Dieu comme les disciples, on voit qu'elle entre dans la volonté de Dieu avec un geste d'amour. Ce geste avec le parfum va beaucoup plus loin que la valeur monétaire. Elle soumet aussi à Jésus sa vision de comment il devrait agir. Puis parfois, nous, on peut être comme Pierre puis les disciples. Et on a une vision du monde de comment Dieu devrait agir. Puis quand Dieu dit quelque chose ou il fait quelque chose qui ne s'aligne pas avec cette vision, on peut le résister comme les disciples. Et Jésus, lui, nous appelle à être comme cette femme qui soumet sa vision à Dieu. Et je pense qu'une des clés de sa vision qui était très claire, c'est l'écoute attentive de Dieu. La femme, dans l'évangile de Marc, n'est pas identifiée. Mais dans l'évangile de Jean identifie cette femme comme Marie, la sœur de Lazare. Puis elle est connue aussi pour une autre histoire dans les évangiles, où lorsque Jésus est venu chez eux, sa sœur Marthe est en train de courir partout pour préparer la maison, mais Marie, elle était assise au pied de Jésus, en train de l'écouter attentivement. Et Jésus l'appuie dans son choix. En étant assis au pied de Jésus et en l'écoutant attentivement, ses pensées et sa vision du monde fut transformée. Ici, on voit que Jésus souligne l'action de Marie, car elle se donne pleinement à Dieu, en remettant à lui sa vision du monde de comment il devrait agir. La dernière histoire que nous allons explorer ensemble, c'est Jésus dans le jardin. Notre exemple parfait, comment donner sa volonté à Dieu. Alors, la nuit de son arrestation, Jésus a pris ses disciples à un jardin pour prier. Et cette histoire-là se retrouve quelques versets après l'histoire de la femme avec le parfum. Et nous lisons au chapitre 14, versets 32 à 36. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors ici, on voit Jésus, notre exemple parfait, qui dit, « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Notre exemple parfait qui se soumet à la volonté du Père. Comme nous avons vu tantôt sur page numéro 1 de la Bible, on est créé à l'image de Dieu. Et c'est un concept assez complexe avec plusieurs facettes, mais une des facettes qu'on pourrait dire, c'est qu'on est créé comme des miroirs qui reflètent tous les attributs divins de Dieu. Puis malheureusement, avec le péché qui est venu dans le monde, on est comme des miroirs brisés qui ne reflètent pas tout à fait. Et Jésus, lui, n'est pas créé dans l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est l'incarnation du Dieu vivant. Quand on regarde Jésus, on regarde Dieu. Puis ici, on a Jésus qui se soumet pleinement à la volonté du Père. Puis il ne le fait pas juste avec ses mots. On voit dans les chapitres qui vont suivre que Jésus est allé à la croix. pour moi et pour toi, pour le pardon de nos péchés et pour notre transformation ultime, pour que nos miroirs brisés puissent devenir comme réparés et briller pleinement et refléter la gloire de Dieu. Puis, ce n'était pas facile pour Jésus. Le texte nous parle de frayeur, d'angoisse. Puis malgré cela, on voit que Jésus persévère. Et la chose qui est difficile, c'est qu'ils s'attendent la même chose de nous. Quand les disciples demandent à Jésus comment prier, ils prient le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est un enseignement difficile. On voit à quel point c'était difficile pour Jésus, à quel point ça va être encore plus difficile pour moi et pour toi. C'était difficile pour les disciples. Jésus leur a donné une tâche lorsqu'ils priaient de rester éveillés. Ils n'étaient même pas capables de s'empêcher de s'endormir. Alors, s'ils ne sont pas capables de rester éveillés, comment vont-ils se soumettre à la volonté de Dieu? La réponse est simple, mais compliquée en même temps, par la grâce de Dieu. Et je pense que Pierre, ici, peut nous servir comme exemple. Pierre, lui, qui était présent cette nuit, il a été capable de suivre la volonté de Dieu. Puis on voit que Pierre n'était pas parfait. Comme on a vu tantôt, il a réprimandé Jésus quand il a annoncé sa mort. Puis on voit même le soir de son arrestation, il a renié Jésus à plusieurs reprises. Puis, malgré ses défauts, Pierre fut quelqu'un qui rechercha la volonté de Dieu. Et Dieu a été capable de l'utiliser pour accomplir sa volonté. Puis on voit ça à travers la Bible. Dieu qui utilise du monde imparfait, qui ont un cœur pour lui et sa volonté pour accomplir des choses extraordinaires. Puis il a été capable de le faire avec eux, puis il est capable de le faire avec toi aussi. Je pense que cet exemple-là de Jésus est un exemple parfait pour nous, malgré le fait que je ne pense pas que moi et toi, on va être dans une situation où on va être en train de remettre notre volonté du Père parce qu'on va mourir pour les péchés du monde, mais parce qu'il y a d'autres manières qu'on est capable de remettre notre volonté à Dieu. Le mot « volonté » vient ultimement du mot « vouloir ». Puis on a chacun nos désirs puis nos vouloirs dans notre vie, puis Dieu aime ça, entendre nos désirs. Moi, par exemple, j'ai le désir d'avoir des enfants un jour. De pouvoir exceller dans ma carrière pour pouvoir aider des gens. Le désir de voir le Canadien gagner la Coupe cette année. Mais Dieu nous demande de le mettre en premier. Comme nous avons parlé tantôt, chanté tantôt, on veut mettre la couronne sur Dieu ultimement. Et Dieu ne m'a pas mis ici sur terre pour être parent, pour être médecin ou pour être le plus gros fan du Canadien, mais plutôt pour être son enfant. Puis toutes ces choses peuvent être des bonnes choses. Puis Dieu nous donne Dieu prend plaisir à nous donner ces bonnes choses. Mais ultimement, il veut être prioritaire dans notre vie. Alors ici, Jésus nous appelle à être comme lui, notre exemple parfait, qui se donne pleinement à Dieu en soumettant à Dieu le Père en se soumettant à sa volonté. Alors en conclusion, ici, nous voyons que Dieu nous désire profondément, car nous avons son image inscrite sur nous. On est comme la pièce de monnaie avec une valeur infinie pour Dieu. Et Jésus, en conséquence, nous appelle à nous donner pleinement à Dieu. Puis, nous pouvons faire cela comme nous avons vu dans les trois histoires avec ces personnes-là qui se sont données pleinement à Dieu, en se soumettant, en donnant nos possessions à Dieu comme la veuve, en soumettant notre vision du monde comme Marie avec son parfum, et ultimement en se soumettant à la volonté du Père, comme Jésus. Et pour terminer, j'aimerais juste vous donner quelques petites distinctions entre les impôts du monde puis les impôts célestes. Moi, mon but, lorsque je fais mes impôts du monde, est de minimiser la quantité d'argent que je donne au gouvernement. Et je pense que Dieu, lui, ne veut pas le minimum. Il veut qu'on se donne complètement à lui, comme les trois personnes qu'on a vues dans les histoires ce matin. Puis une autre différence importante est que César, lui, il avait besoin de son argent pour son empire. La cessation du système d'impôts serait catastrophique pour lui. Puis c'est pareil de nos jours. Si tous les Canadiens arrêtaient de payer leurs impôts aujourd'hui, ça serait catastrophique. Vous avez vu les nids de poules d'or puis le système de santé qui déborde. Imaginez un monde sans impôts. Le gouvernement a besoin de notre argent. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de nos impôts. Il n'a besoin de rien. Il est parfait comme il est. Dieu est content lorsque nous payons nos impôts célestes, mais il n'est pas content parce qu'il reçoit quelque chose. On n'a rien qu'on peut lui donner qu'il n'a pas déjà. Mais Dieu est content car lorsqu'on se donne à lui, on est entre ses mains, puis de là, il peut nous transformer. Alors, prions à Dieu qu'on puisse se donner pleinement à lui, car c'est son désir. Alors, prenons un moment pour prier. Seigneur, on te remercie pour ce temps, ce matin, Seigneur. Alors, on prie que on puisse voir notre valeur à tes yeux, car on a ton image inscrite sur nous, Seigneur. Alors, Seigneur, on prie que par ta grâce, tu puisses nous aider à être comme ces trois personnes qu'on a vues ce matin, la veuve, la femme avec son parfum, puis ultimement, Jésus, pour être des exemples et des pistes de réflexion pour comment se donner pleinement à toi, Seigneur, car c'est vraiment ça notre appel dans notre vie. Alors, on prie qu'au courant de la semaine, Seigneur, tu puisses nous parler à travers ton Saint-Esprit, nous donner des moments où ce qu'on peut ultimement se donner à toi. Car en faisant cela, Seigneur, on accomplit notre but ultime d'être ici sur terre, de se donner à toi, être dans tes mains, parce qu'à travers cela, tu peux nous transformer pour devenir comme des miroirs parfaits qui vont briller parce qu'on reflète ta gloire. Nous prions cela dans ton nom. Amen. Merci. Merci.